Je vous souhaite de nouveau la bienvenue à l'Institut Astrophysique de Paris pour la reprise de nos conférences publiques du mardi soir. Donc, comme je le disais à l'instant, de nouveau dans un amphi quasiment vide, mais on espère donc filmer sur YouTube, retransmis en direct avec Jean à la réalisation et Pierre à la caméra. Et donc on espère qu'on pourra très vite reprendre l'accueil du public dans notre amphithéâtre avec certaines contraintes de jauge, de masque, de laisser passer sanitaire, etc. On vous annoncera ça très vite sur notre site internet, mais on espère pouvoir faire ça dès la prochaine conférence du 5 octobre prochain, qui sera présentée par Rémi Cabanac de l'IRAP à Toulouse, qui nous parlera des groupes de galaxies. La suite du programme, le 2 novembre, nous recevrons Gonel Boué de l'IMCCE à l'Observatoire de Paris, qui parlera probablement de dynamique dans les systèmes planétaires. Le mardi 7 décembre, nous recevrons notre collègue Thierry Fouchet du LESIA à l'Observatoire de Paris, qui lui parlera de l'exploration d'un cratère avec un rover de la mission Mars 2020. Mais donc ce soir, comme je vous le disais, eh bien, nous sommes toujours sur YouTube, et donc il y a un chat sur YouTube, donc vous pouvez poser des questions, faire des commentaires, et donc j'essaierai de retranscrire ces commentaires à la fin pour poser les questions à notre orateur. Et donc notre orateur du soir, c'est Christophe Pichon. Donc Christophe, c'est un de nos collègues ici à l'Institut Astrophysique de Paris. Christophe est directeur de recherche. Avant ou au cours de son séjour à l'Institut Astrophysique de Paris, il a travaillé également dans de nombreux endroits, à Cambridge, Oxford, au Royaume-Uni, à Toronto, au Canada, à Bâle, en Suisse, à Strasbourg également, en France, à d'autres endroits également. Ses travaux portent sur l'étude de la dynamique gravitationnelle, ce qui l'a mené à étudier différents systèmes, les galaxies, leurs trous noirs, le milieu interstellaire, le milieu intergalactique, les grandes structures dans l'univers. Tous ces objets-là en prenant en compte la matière noire, donc que tu étudies beaucoup. Il aborde ces questions d'un point de vue théorique, notamment par le biais de la simulation numérique. Et donc ce soir, tu nous présentes une conférence intitulée « L'émergence cosmique des disques galactiques » avec comme sous-titre « L'ordre à partir du chaos ». Je t'en prie, Christophe.
Merci. Je voudrais vous parler donc ce soir de l'émergence cosmique des disques galactiques. Alors c'est un titre un peu effrayant, mais vous allez voir, en fait, c'est assez simple. Donc les disques galactiques, c'est des objets que j'ai toujours trouvé beaux. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse sur la stabilité des disques galactiques. Et comme c'est souvent le cas, des objets beaux gagnent en beauté à expliquer comment ils fonctionnent. Donc je vais essayer de vous parler de leur formation et ensuite de leur survie dans un milieu hostile. La persistance des disques galactiques minces est un élément clé de notre compréhension de l'univers à grande échelle, parce que ce sont des objets fragiles, comme on va le voir. L'hypothèse de fonctionnement pour leur survie, c'est de supposer que l'univers a atteint une période calme il y a environ 5 à 10 milliards d'années. Mais à l'inverse, le modèle standard cosmologique suppose un environnement passé perturbé. Donc en fait, il y a une tension entre ces deux hypothèses qui sont a priori contradictoires et qui devaient être résolues, et ce qui a fait l'objet de nos recherches depuis maintenant à peu près exactement 30 ans. Donc la solution de ce paradoxe est particulièrement intéressante, même au-delà de l'astrophysique, c'est ce que je vais essayer de vous communiquer, car elle fait intervenir un processus qu'on dit d'autorégulation spontanée, qui est assez universel, bien que souvent sous-estimé. Donc, en ce sens, cette présentation a un intérêt au-delà de l'astrophysique pour vous sensibiliser plus généralement au fait que dans la nature, en physique ou en biologie, le tout ne se comporte pas comme la somme de ses parties et l'effet n'est pas toujours proportionnel à la cause. Donc ici, on est dans un contexte simple de la gravitation, d'un système essentiellement fait d'étoiles qui tournent les unes autour des autres. Et c'est la gravité qui mène la danse à peu près toutes les échelles pertinentes. Et donc, c'est intéressant d'étudier l'émergence sur un système a priori simple. Donc, juste pour être un tout petit peu plus précis par ce qu'on entend par émergence, donc si vous regardez une page Wikipédia, l'émergence, c'est l'apparition de structures nouvelles et cohérentes via l'auto-organisation dans des systèmes complexes. Donc, vous pouvez voir sur ces illustrations des exemples d'émergence dans le mouvement cohérent de vol d'oiseaux, de poissons qui nagent ensemble, dans l'apparition spontanée d'ouragans à la surface de la Terre, dans ces structures basaltiques, ou dans l'apparition, par exemple, ici, de cristaux de glace. Donc on voit que l'émergence de quelque chose de nouveau qui n'est pas décrit à l'échelle microscopique dans les composants du système, donc a priori le mouvement à petite échelle des océans ne suppose pas l'apparition à grande échelle de ces grands tourbillons. Donc ce que je vais vous présenter dans cette conférence, c'est l'émergence des disques minces dans l'environnement cosmologique. Revenons un petit peu en arrière. Là, j'ai dit des choses peut-être un petit peu compliquées. D'abord, de quoi on parle? On va étudier les disques galactiques. Le plus célèbre d'entre eux, vous pouvez le voir simplement en levant la tête le soir, pour peu que vous soyez dans un endroit où il n'y a pas trop de pollution lumineuse. Donc, c'est la Voie lactée. On est à l'intérieur d'un disque galactique qui contient environ 100 milliards d'étoiles. Et c'est cette structure allongée le long de la voûte céleste. On est à l'intérieur d'un disque, et donc on la voit sous cette forme. Voici d'autres exemples de visualisation de la Voie lactée faites par des gens qui ont juste un appareil photo pour prendre des photos du ciel. On peut la voir particulièrement bien quand on est en haut, par exemple ici du Mauna Kea, où on voit tout l'essentiel de la Voie lactée sur l'ensemble de la voûte céleste. Mais c'est quelque chose qui est accessible à l'œil nu, donc c'est une structure importante, c'est notre maison dans l'univers. Donc comprendre pourquoi elle est là et comment se fait-il qu'elle soit encore là, c'est un élément important des origines cosmiques en ce qui nous concerne. C'est une structure qu'on peut étudier plus en détail en cartographiant la position des étoiles dans la voûte céleste, qu'est en train de faire le satellite Gaïa au-dessus de notre tête, qui mesure des positions de milliards d'étoiles. Et donc, à partir de la position de ces milliards d'étoiles, on peut reconstituer sur l'ensemble de la voûte céleste et déprojeter sur ce gros ballon de rugby la Voie lactée. Et ce qu'on observe, c'est qu'on est bien en présence d'un disque mince avec un bulbe au centre. Ce disque a une certaine épaisseur quand on l'observe en comptage d'étoiles comme ceci. Mais on peut l'observer à différentes longueurs d'onde, donc par exemple en lumière visible ici, mais aussi par exemple dans l'infrarouge, aux ondes radio, et on voit qu'en fonction de la longueur d'onde, on est toujours en présence d'un disque mince, mais qui est plus ou moins mince, et en particulier qui est particulièrement mince quand on regarde des traceurs du gaz dans la galaxie. Donc on a un disque de gaz qui est vraiment extrêmement mince, et puis un disque stellaire qui est un peu plus épais. Et l'objet de ma conférence, c'est de vous expliquer pourquoi ce disque stellaire reste mince, ce qui n'est pas du tout évident a priori. Donc des galaxies, y a la nôtre, mais si on regarde ailleurs, on peut voir des galaxies externes. Donc voilà un bel exemple de disque galactique, une galaxie spirale. Donc on a ici des dimensions qui vont être de l'ordre de 30 à 60 000 années-lumière de longueur et environ 300 années-lumière d'épaisseur, donc on est vraiment un système très aplati. Et voici d'autres exemples de disques galactiques, de galaxies spirales. Quand deux galaxies spirales se rencontrent, elles coalescent, on appelle ça une fusion galactique, et la structure qui se forme est en général très spectaculaire. Donc voici un exemple de galaxie qui est passée au travers du centre d'une autre galaxie qui a induit des ondes de densité. Voici d'autres exemples de fusion galactique très spectaculaire. Et le résultat net de ce processus de fusion, encore quelques exemples de fusion ici, c'est une galaxie elliptique. Donc la galaxie elliptique, c'est une structure, un ensemble d'étoiles qui est beaucoup moins structuré. Il y a un mouvement beaucoup moins cohérent de rotation autour d'un axe donné, comme dans la galaxie spirale, et qui est typiquement compris comme étant le résultat de fusion galactique par la communauté. Donc voici d'autres exemples de belles galaxies elliptiques qui sont donc des résidus de fusion galactique. Et on en trouve beaucoup dans les régions les plus denses de l'univers, qu'on appelle les amas de galaxies, où il est plus vraisemblable d'avoir des collisions galactiques puisque la densité est plus élevée, donc les galaxies s'agitent plus les unes et les collisions sont plus fréquentes. Donc, les astronomes ont mis au point une classification des galaxies qui s'appelle la séquence de Hubble, dans laquelle on va considérer pour cette présentation deux types d'objets. À ma gauche, les elliptiques, qui sont les résultats des fusions, et à ma droite, les spirales. Alors, on distingue les spirales barrées des spirales non barrées, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Et donc, je vous ai expliqué comment on pouvait aller de la droite vers la gauche à savoir comment la coalescence de deux spirales pouvait conduire à une elliptique. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut aller d'une elliptique vers une spirale. Et vous allez voir que c'est possible dans une certaine mesure, mais ce n'est pas du tout évident et ça nécessite un processus d'autorégulation dont je vais vous parler. Donc la question qui se pose quand on veut aller de la gauche vers la droite, c'est qu'est-ce qui peut permettre à du gaz de se réagencer autour de ce qui va être le bulbe de la galaxie, le résidu de la coalescence précédente, et s'assurer que ce gaz est accrété de manière suffisamment cohérente pour reformer un disque qui lui-même va survivre pendant 10 gigaères, 10 millions d'années, pardon, en français. Donc, un point important, et ça va être un des vraiment rares points, un tout petit peu technique que je vais faire dans cette présentation, c'est qu'il est important de distinguer la différence entre un fluide sans collision et un fluide avec collision. Parce qu'en fait, les disques sont omniprésents dans l'univers, mais on peut caractériser deux types de disques. Il y a les disques gazeux, qui sont des disques faits de gaz classique, qui est donc collisionnel, et les disques stellaires qui sont faits d'étoiles qui essentiellement ne se tapent pas les unes dans les autres. Et donc j'ai représenté ici deux simulations qui vous montrent ce qui se passe quand je fais collisionner deux jets de gaz pour un fluide avec collision, et ici une simulation où je fais coalescer un satellite autour d'un objet plus massif et pour des particules, en l'occurrence de matière noire, qui sont non collisionnelles. Et donc vous voyez qu'il y a une énorme différence. Pour le fluide avec collision, il y a un énorme choc qui se développe, les particules de gaz vont se taper dedans typiquement, et ça va changer leur trajectoire, alors que pour le fluide d'étoiles, par exemple, ou la fluide de matière noire, les particules passent au travers d'elles-mêmes, c'est un fluide sans collision. Donc on voit que, en ce qui concerne nos galaxies, on a un fluide d'étoiles, et donc c'est un fluide non collisionnel, et donc sa survie va être très différente de celle, par exemple, des disques protoplanétaires qui sont observés ici par ALMA, et qui, eux, sont des disques de gaz. Donc la question qui se pose, c'est quand bien même j'arrive à amener du gaz pour former un nouveau disque autour d'une galaxie, une fois que ce gaz est transformé en étoile, comment je m'assure que, à la prochaine perturbation, ou quand il y a une accrétion secondaire de gaz qui n'est pas exactement suivant la même direction, les nouvelles étoiles vont rester à peu près alignées avec les anciennes. C'est ça le cœur de ma présentation. Je vais vous expliquer pourquoi et comment on arrive à former le disque, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi il arrive à se maintenir en tant que disque dans un environnement perturbé. Donc l'objet de l'étude de cette présentation, c'est vraiment ces disques minces. Donc je vous donne des exemples ici de disques vus sur la tranche. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces objets sont des structures incongrues dans un univers chaotique? C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à former des étoiles et les maintenir dans le plan du disque? Pour maintenir un objet comme ceci, qui est extrêmement mince, qui a un rapport d'axe de 1 à 20 ou 1 à 100, pendant la moitié de l'âge de l'univers, alors qu'il va subir un nombre très important de perturbations, à la fois externes, parce qu'il est dans un environnement cosmologique où il y a des coalescences, des galaxies qui passent dans le voisinage, etc., et parce qu'il y a des perturbations à l'intérieur du disque, comme je vais vous le montrer. Donc voilà un exemple de champ dans lequel il y a à la fois une galaxie vue sur la tranche et puis deux autres spirales. Et l'indice qui nous a permis de comprendre ce qui se passe, il est en fait visible sur cette photo. Et il provient de la géométrie de ce qu'on appelle le milieu circumgalactique. Donc le milieu circumgalactique, c'est le milieu qui est autour de la galaxie, d'où le nom. Et donc l'indice, il est ici. Vous voyez ici, il y a une sorte de traînée très diffuse qui s'avère être de la lumière stellaire. Et donc, si on fait une pause plus profonde, on voit qu'il y a effectivement une traînée d'étoiles qui a l'air à peu près coplanaire avec l'axe le plan du disque. Et donc, ceci suggère que, d'une façon ou d'une autre, il y a des étoiles qui se sont formées dans une direction qui est relativement coplanaire avec le plan du disque. Et donc ça, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que comment est-ce que les étoiles qui arrivent par ici, ou le gaz qui arrive par ici, il a su trouver le disque. Il a su arriver dans le bon plan pour coalescer dans le disque. sachant que la section efficace, l'ouverture du disque, elle est toute petite, parce que la structure ici, elle fait 100 en unité de, si se trouve, c'est des kilos par sec, mais ça vous est égal, alors que l'ouverture du disque lui-même, c'est un dixième. Donc il faut vraiment viser juste, et pendant longtemps, pour alimenter éventuellement en étoile ou en gaz frais ce disque. Donc ça pose un problème d'ajustement fin qui est un peu invraisemblable. D'autant plus que la matière qui vient des plus grandes échelles, elle arrive dans le halo de matière noire qui lui a une dimension encore supérieure. Et donc on a un rapport de 1 à 1000 à 1 à 10 000 entre la direction d'accrétion à l'échelle de ce qu'on appelle les grandes structures, donc le voisinage à plus grande échelle de cette galaxie, et le plan du disque. Or, il se trouve, quand on observe avec des CCD qui arrivent à poser longtemps sur le ciel, que ce type de structures d'accrétion coplanaire sont en fait relativement communes. Donc ici, on voit une structure de coalescence. Ici, on voit ce qu'on appelle un gauchissement en français, et on utilise plutôt le terme anglais qui est un warp galactique. Donc, dans les années 90, il a été avancé que c'était vraisemblablement de l'accrétion cosmique qui correspondait à la mise en place de couches externes dans le disque galactique de ce gauchissement. Donc, encore une fois, comment trouver la galaxie et comment collimater l'accrétion? C'est ça le puzzle qu'on essaye d'aborder ce soir. Donc, je vous montre d'autres exemples de ces structures de marée, comme on les appelle, qui correspondent à la trace d'accrétion diffuse dans le milieu circumgalactique de ces galaxies. Et en fait, la bonne façon de raisonner, moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai commencé ma thèse dans les années 90, on a commencé à observer le voisinage de notre voisine, M81, non pas dans la lumière visible ici, mais dans les ondes radio. Et donc, on a vu apparaître cette structure très étendue qui allait largement au-delà de l'étendue du disque stellaire ici, et qui montrait que le gaz à beaucoup plus grande échelle avait trouvé le plan de la galaxie, puisqu'il était à peu près coplanaire avec ce plan, et avait une extension qui allait très largement au-delà de la galaxie. Donc il semble que quand on trace le gaz, et je vous rappelle que les étoiles se forment à partir du gaz, donc comprendre comment la galaxie accrète de la masse et construit son disque, il faut suivre le gaz, et bien on voit que le gaz, lui, a trouvé la galaxie. Donc, l'objectif de comprendre comment l'accrétion se fait, il faut se focaliser sur le gaz qui est source d'étoiles, mais on a un problème de dimension, puisqu'ici, on a des structures qui font 1000 fois l'épaisseur du disque lui-même. Donc, si maintenant on s'éloigne un petit peu et on regarde ce qui se passe à encore plus grande échelle, on a ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers. Donc là, je vous montre une animation qui a pris la position des galaxies observées à très grande échelle, qu'on a déterminée par spectroscopie, et on a, à la position de cette galaxie, mis une image de la galaxie qu'on est en train de considérer. Et donc ce qu'on va voir, grâce à cette animation, c'est que les galaxies à grande échelle ne sont pas distribuées aléatoirement, mais forment donc ce qu'on appelle les grandes structures, c'est-à-dire c'est une structure spongieuse, avec des murs, des filaments et des grands vides. Et ce que je vais vous expliquer, ce qu'on va voir ensemble, c'est que cette structure à grande échelle joue un rôle essentiel dans le problème qui nous intéresse. Le disque mince galactique est le fruit de la dynamique du gaz dans les grandes structures. Le seul point qui n'est pas réaliste sur cette animation, c'est que les galaxies sont plus grandes, la petite vignette qui représente chaque galaxie est plus grande que la taille de la galaxie à proprement parler. Donc depuis 30 ans maintenant, les simulateurs dont je fais partie cherchent à reproduire ce type d'observation des grandes structures de l'univers. Donc voici un exemple de simulation où on part d'une soupe primordiale, on met du gaz, on met de la matière noire, on donne les lois de la gravitation et de la formation stellaire, et on laisse la simulation évoluer pendant 300 millions d'heures, en l'occurrence, sur cette simulation qui a tourné en Corée. Et voici ce qu'on reproduit. Donc vous voyez que dans la simulation aussi, on a une diversité de couleurs de galaxies, de formes, etc. On a des amas de galaxies, vous allez en voir passer en bleu. Et on a une distribution à grande échelle avec une structure, avec des murs et des filaments, comme dans les observations. Alors, c'est peut-être pas très clair quand on regarde les galaxies. Je ne sais pas si vous voyez ou non le fait qu'il y a une structure avec des vides et des murs, une structure filamentaire. Mais on va regarder dans une seconde la même chose en ne traçant pas les galaxies, mais en traçant la matière noire. Et vous verrez que ce sera alors spectaculaire. Donc, voici la simulation de matière noire. Donc, pareil, sauf que cette fois-ci, on ne cherche plus à suivre la formation des galaxies dans cet univers en expansion. On regarde juste la distribution de matière noire. Donc, vous voyez qu'il y a bien une structure filamentaire avec des murs et des filaments. Et là, on va zoomer, on va tourner. Donc, vous allez bien voir la présence de ces murs et de ces filaments qui vont jouer un rôle dans l'accrétion galactique dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça, c'est une simulation qui est faite par un de mes collègues, qui a été faite il y a quelques années maintenant par un de mes collègues, Stéphane Colombi, à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est une simulation assez spectaculaire, je trouve. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas tout à fait ce que fait la matière noire, parce qu'on veut alimenter en gaz des galaxies. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder ce que va faire le gaz dans les grandes structures. Donc, on passe à une autre simulation faite par des collègues lyonnais cette fois-ci. Et là, on regarde, pareil, la structure filamentaire, mais vue dans la composante gazeuse. Et donc, ce qu'on voit clairement, on voit bien qu'il y a un mur ici, on voit qu'il y a une structure filamentaire avec potentiellement des galaxies au nœud de cette toile cosmique, telle qu'on l'appelle. Peut-être que je peux vous la refaire. Et donc, on voit bien qu'ici, il y a un mur, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que, en ce qui concerne le gaz, et ça va être important pour la suite, la structure filamentaire est beaucoup plus contrastée que pour la matière noire. Les filaments de gaz sont beaucoup plus denses et beaucoup plus limités à juste les filaments que pour la matière noire. Donc maintenant, regardons une simulation plus récente où on forme aussi des galaxies. Donc on voit des petites galaxies qui se forment ici dans cette toile cosmique. On est à plus petite échelle. Mais ce qui est frappant quand on regarde cette simulation, donc ce que vous voyez en bleu ici, c'est une petite galaxie qui est en train de se former, c'est que d'accord, elle se forme, la galaxie, mais elle en prend plein la figure, c'est-à-dire que les coalescences ont lieu de manière répétée, etc. Et donc ça va être difficile, si ce processus a lieu pendant 100 fois le temps que vous voyez sur la simulation, de préserver le disque pendant cette durée dans un nouvel environnement aussi perturbé. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un mécanisme d'autorégulation dont je vais vous parler. Donc voilà ce qui se passe à relativement grande échelle. Si maintenant on zoome sur ce qui va être le précurseur d'une seule galaxie, donc ça c'est une simulation encore plus récente, faite par Johan Dubois ici à l'IAP. Donc ici vous allez avoir une galaxie qui va se former. Vous voyez que cette galaxie, elle est la résultante de la coalescence de plein d'autres petites galaxies et elle vit dans un environnement assez perturbé aussi. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous avez bien un disque qui s'est mis en place ici. Je vous le refais peut-être parce que c'est joli. Donc vous voyez qu'il y a plein de petites galaxies qui se forment le long des nœuds de la toile cosmique et qui coalescent et qui acquièrent un gaz, un disque et qui éventuellement, ce disque se fait détruire par fusion et puis qui se reforme par réaccrétion de gaz, etc. Voilà. Donc en fait, la simulation que je vous ai présentée, c'est une sorte de ce qu'on appelle un zoom, c'est-à-dire on modélise tout ce qui se passe à l'intérieur de cette région qui est étendue avec une structure filamentaire. Et à redshift 0, aujourd'hui, pardon, on voit apparaître de magnifiques disques minces à l'intérieur de la simulation. Donc vous voyez que l'environnement extrêmement perturbé que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est la même simulation. Elle n'est pas incompatible avec l'émergence spontanée de ces disques minces simulés. Donc là, on n'est plus en train de... Je ne vous montre plus des observations, ça c'est une simulation. Mais la simulation a produit spontanément un disque extrêmement mince. Donc voilà une animation qui vous montre la formation de ce disque dans sa composante stellaire. Donc on voit qu'initialement, il y a effectivement des perturbations, mais au fil du temps, le disque se stabilise et s'affine pour former une structure stellaire qui est compatible en termes de rapport d'axe avec ce qui est observé sur le ciel. Donc voilà, vous pourriez me dire, ben, on a la preuve que ça marche puisqu'on arrive à le simuler. Mais moi, je trouve ça intéressant de comprendre pourquoi ça marche. Donc le reste de ma présentation, ça va être de vous expliquer pourquoi ça se passe bien, pourquoi c'est possible. Sinon, vous pouvez vous arrêter là, dire, bon, ben voilà, on a fait une simulation, ça marche, et puis c'est bien. Mais à titre personnel, je trouve ça intéressant de comprendre pourquoi, parce qu'en fait, ça a des implications même au-delà de l'astrophysique, en termes d'émergence, donc, qui est l'objet de... Donc, pour vous dire, dans la simulation, il n'y a pas juste cette galaxie, on arrive à former toutes ces galaxies, et en fait, on a quelques milliers de galaxies qui se forment. Pour la plupart, dans cette région de l'univers, ce sont des disques, et il y a beaucoup de ces disques qui ont des disques très minces. D'accord ? Donc, ce n'est pas juste un cas unique. La simulation, avec les bons ingrédients de formation stellaire et de rétroaction par explosion de supernova, etc., arrive à spontanément former les disques galactiques tels qu'observés. Donc, voici la ligne de vie de la galaxie que je vous ai représentée. Au début, on est dans une situation, elle est très perturbée, elle se prend beaucoup d'accrétion et beaucoup de coalescence de ses voisines. Ici, par exemple, il y a un événement de coalescence où il y a trois galaxies qui vont coalescer, mais néanmoins, il y a remise en place d'un disque mince, et c'est l'objet de la fin de ma présentation. Donc, l'émergence des disques galactiques, on cherche à expliquer l'apparition et la résilience des disques galactiques minces. Ici, on a un disque observé qui s'appelle la galaxie de l'épingle, je crois, alors qu'ici, on a une galaxie simulée, et donc on essaye de comprendre comment cette galaxie, à toute petite échelle, elle est le fruit des grandes structures de l'univers et elle est plongée dans un environnement cosmique anisotrope avec une structure filamentaire qui va l'alimenter suivant des directions privilégiées qui sont données par la toile cosmique en gaz. Et c'est ça qui va permettre au disque de se former et ensuite de résister aux perturbations. Donc c'est un résultat un petit peu inattendu parce que cette toile cosmique... elle avait dans un premier temps été ignorée dans notre compréhension de la formation des galaxies. Ensuite, elle a été prise en compte au niveau de la formation de l'objet. Mais maintenant, on se convainc qu'elle joue un rôle aussi dans la préservation de l'objet, dans le fait que le disque reste mince. Donc, la première partie de mon exposé va être consacrée à la formation des disques qui est contrôlée par l'accrétion inotrope venant des grandes échelles. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce qui est important, c'est que ces grandes échelles sont moins denses et donc elles sont plus stables. Et que le gaz choque le long de la toile cosmique, et c'est ça qui permet de bien alimenter et de former le disque correctement. Et dans une deuxième partie, je vous expliquerai pourquoi la préservation du disque est liée à la mise en place d'une boucle de contrôle qui lui permet de rester mince. Donc la première partie, c'est une illustration de ce qu'on appelle de causalité descendante, parce que c'est ce qui se passe à grande échelle qui va... impacter la structure à petite échelle. Et la deuxième partie, c'est un exemple d'autorégulation spontanée, donc c'est ce qu'on appelle l'émergence, où on a mise en place spontanée d'un système qui s'autorégule. Donc, je vous rappelle la problématique, on a des warps galactiques, des disques minces, et on a un milieu circumgalactique qui semble connaître la direction d'accrétion nécessaire pour alimenter un disque en gaz mince. Un disque mince en gaz, pardon. Donc voilà, encore une fois, une séquence de la simulation, vue de la galaxie qui se forme, vue du dessus et vue sur la tranche. Donc, je vais vous présenter les éléments dont j'ai besoin pour faire la proposition qui explique comment les disques galactiques se forment. Ça fait une demi-heure que je parle à peu près ? Oui. Très bien. Donc, un disque galactique, c'est un ensemble d'anneaux qui tournent autour d'un même axe et dont la partie externe tourne plus vite que la partie interne. Ça, c'est ce qu'on mesure, disons, dans les galaxies. Alors, on dit que la partie externe a plus de moments angulaires. Donc, pour pouvoir construire un disque, il faut amener un anneau supplémentaire et il faut que cet anneau il ait plus de moments angulaires pour qu'il reste bien en périphérie. D'accord, c'est les deux ingrédients nécessaires pour préserver la structure du disque. Donc, si on regarde une simulation, là, moi, c'est en regardant cette simulation que j'ai eu l'intuition du processus que je suis en train de vous décrire. Donc là, on regarde des simulations et c'est des tranches relativement fines, ce qui permet de bien voir la formation des vides et la structure filamentaire. Et donc, ce qu'on observe, c'est que, bon, d'abord, les régions denses deviennent denses, la gravité attire de manière catastrophique, ça, c'est attendu. Mais comme on est dans un univers en expansion, il y a une deuxième chose qui se passe et qui en fait est important ici, c'est que les vides, qui sont à des sous-densités par rapport à la densité moyenne de l'univers en expansion, ben ces vides, ils deviennent de plus en plus vides. Et donc en fait, les régions vides, c'est des régions qui poussent, contrairement aux pics qui attirent, en parallèle, il y a les régions vides qui poussent la structure des murs et des filaments. Et ça, ça va jouer un rôle parce que ça va induire non seulement une accrétion massive au voisinage des pics, mais une dérive des filaments qui vont être poussés vers la gauche ou vers la droite plus ou moins fortement en fonction du fait que ces filaments ils sont entourés de vides plus ou moins gros. Si j'ai un gros vide, je vais pousser beaucoup le filament. Si de l'autre côté, il y a un vide plus faible, le filament il va se décaler de la gauche vers la droite, tel que je viens de vous le décrire. Et donc, en fait, le fait qu'on est dans un univers en expansion avec des régions sous-denses et le fait que les vides repoussent, ça met en mouvement la structure filamentaire. Comme, in fine, les filaments sont mangés par les pics et ils correspondent à la matière qui va être accumulée plus tardivement, le mouvement transverse de la structure filamentaire qui a été déclenché par des vides plus ou moins forts qui entourent les filaments ou les murs, il va se traduire par une accrétion de matière, de gaz en l'occurrence, qui va amener de plus en plus de moments angulaires et de manière régulière. Pourquoi de manière régulière? Parce que vous savez par exemple que Vénus tourne plus vite autour du Soleil que la Terre, qui elle-même tourne plus vite autour du Soleil que Neptune, parce qu'ils sont plus loin, donc ils sont moins attirés. Donc pour être à l'équilibre centrifuge, ils sont obligés de se déplacer plus ou moins vite suivant qu'on s'éloigne. Et donc ce que savent les astronomes, c'est ce qui va déterminer ce qu'on appelle le temps dynamique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les choses se passent, c'est la densité. Donc quand on regarde toute la matière à l'intérieur de l'orbite de Vénus, on a le Soleil essentiellement, et on a une petite sphère, donc on a une forte densité, donc les choses se passent vite. Si on fait la même chose au niveau de la Terre, on a toujours essentiellement le Soleil, parce que c'est le Soleil qui domine toute la masse à l'intérieur du système solaire. Mais par contre, on a un volume plus grand. Donc la densité est un peu plus faible, la Terre tourne moins vite. Si on fait le même raisonnement au niveau de Pluton, on a une densité encore plus faible, donc Pluton met beaucoup plus longtemps à tourner autour du Soleil. Guillaume saurait peut-être me dire en combien d'années. Toujours est-il que la chose importante, c'est que la structure filamentaire, c'est une région peu dense de l'univers. Parce qu'ici, dans la représentation que je vous fais, on a pris le log de la densité de matière noire. Et donc, les régions qui sont roses foncées sont des régions extrêmement peu denses comparées aux régions blanches ici. Et donc, ce qui est hérité des grandes structures, c'est-à-dire quand le pic central mange son filament, il acquiert du moment angulaire d'une structure qui évolue lentement. Donc ça veut dire que ce qui va être mangé par le halo de matière noire ou la galaxie in fine avec le gaz qui coule le long de cette structure, ça va être quelque chose qui a une certaine cohérence temporelle parce que c'est peu dense. D'accord ? Donc ça c'est vraiment important, c'est le seul ingrédient physique que j'ai besoin de vous communiquer aujourd'hui. Les régions denses ont des temps dynamiques courts, les régions moins denses ont des temps dynamiques plus longs. Comme les filaments sont peu denses, ils ont une cohérence temporelle importante. Et ça, c'est important pour construire la structure filamentaire. Donc ici, je vous montre la même chose vue légèrement différemment. Donc là, on est en train de regarder une boîte de simulation avec une structure filamentaire, un mur ici. Et ce qu'on peut voir, c'est le suivi de la position des particules de matière noire. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les particules de matière noire partent du centre du vide ici, se projettent le long des murs et ensuite vont des murs vers la structure filamentaire et in fine, collectivement, vont de la structure filamentaire vers les pics. Donc, le point important, c'est qu'on a effectivement les pics qui attirent catastrophiquement, ça, tout le monde le savait, mais dans un univers en expansion, les vides et les murs repoussent parce qu'ils ont des contrastes plus négatifs, parce qu'on est avec des contrastes négatifs pour les vides, et donc ils contribuent à l'accrétion. Et l'accrétion se fait en trois temps. La matière est projetée des vides vers les murs, des murs vers les filaments et des filaments vers les halos de matière noire et des galaxies. Donc ça, c'est le chemin collectif de la matière dans les grandes structures de l'univers, en l'occurrence de la matière noire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le gaz. Alors je suis désolé, j'ai un tout petit bout de transparent en anglais ici, mais ça ne change pas grand-chose. La différence entre le gaz et la matière noire dont je viens de vous parler, c'est que le gaz, je vous ai montré tout à l'heure, il n'a pas le droit de passer au travers de lui-même. Donc, quand il y a de la matière qui est éjectée d'un mur et puis d'un autre mur et qui se rencontre, pardon, d'un vide et d'un autre vide et qui se rencontre au niveau d'un mur, il va y avoir un choc qui se forme et l'écoulement va avoir lieu dans le plan du choc. Donc, ça se traduit par le fait que le gaz va suivre la toile cosmique, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai déjà montré en fait ce résultat, mais il va suivre la toile cosmique beaucoup plus étroitement que la matière noire. D'accord ? Donc ça, c'est une propriété, c'est la différence entre le fluide collisionnel du gaz et le fluide non collisionnel qu'est la matière noire. Donc ce que ça veut dire, c'est que la toile cosmique, c'est super important pour la morphologie galactique, pour la forme des galaxies, parce que les galaxies se forment à partir du gaz et le gaz suit étroitement la toile cosmique. D'accord ? Donc la toile cosmique, c'est le truc qui génère de l'anisotropie à grande échelle, et c'est cette anisotropie qui va se transformer en rotation et qui va permettre aux galaxies de tourner sur elles-mêmes de manière cohérente. Donc, contrairement à ce que faisait la matière noire tout à l'heure, le gaz, lui, part des vides, il va dans les murs, il choque une première fois, ensuite il coule le long dans les murs jusqu'au filament, il choque une deuxième fois, il coule le long des filaments et il arrive dans ce qu'on appelle le milieu circumgalactique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il choque une dernière fois. D'accord ? Donc ça, c'est ce que fait le gaz. Alors, est-ce que c'est vrai ? Voici une illustration. Ici, on regarde une simulation comme tout à l'heure, où il y a une structure filamentaire qui va se former suivant cet axe, et on voit que la structure filamentaire est alimentée en gaz qui vient dans le plan de l'image, du mur, et il y a formation d'une protogalaxie le long de l'axe du filament, qui va accréter la matière qui vient des plus grandes échelles. Donc on voit que ce qu'on appelle les courants froids, c'est-à-dire cette structure du gaz accrété, suit la toile cosmique et conduit à la formation et la reformation récurrente de disques. Donc c'est bien les grandes structures qui contrôlent l'accrétion galactique. Donc je vous ai donné les indices dont j'ai besoin pour faire ma proposition. Les disques ont une distribution cohérente stratifiée du moment angulaire. Alors c'est un peu du jargon, mais ça veut dire que on a une structure en anneaux et qui doivent tourner autour du même axe, avec des anneaux externes qui tournent plus vite. Les vides et les murs voisins se repoussent puisqu'ils ont des contrastes négatifs et contribuent à l'accrétion. Le gaz choque et suit précisément les filaments. L'accrétion galactique hérite donc de leur stationnarité relative. Je vous ai dit que les filaments étaient peu denses, donc ils ne bougent pas énormément. Et les galaxies se forment et évoluent sur la toile cosmique, parce que les galaxies ne se forment que dans les régions surdenses, donc pas dans les vides, typiquement. Plutôt dans les murs et plutôt dans les filaments dans les murs. Donc les disques se reforment parce que les grandes structures sont jeunes, dynamiquement et anisotropes. Il y a une toile cosmique, c'est important. Elles induisent une advection cohérente du gaz froid le long des filaments, donc ça veut dire le gaz froid coule le long des filaments, je suis désolé, il reste encore un peu de jargon, qui stratifie pour reconstruire continuellement des disques. Donc maintenant, je vous ai expliqué pourquoi il y a des disques qui se forment en permanence dans l'univers et pourquoi ça vient de la toile cosmique. J'espère vous avoir convaincu au moins de ça. Donc je vais vous donner quelques validations avant de passer à la deuxième partie, qui est la question de la résilience de ces disques. Donc ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut se servir de la dérive des filaments pour voir le processus d'acquisition de la rotation, enfin du moment angulaire dans la structure filamentaire. Donc ici, je considère une simulation et j'identifie la structure filamentaire et puis je le fais à toutes les époques d'évolution de la simulation. Donc ça fait cette magnifique animation où on voit toute la ligne de vie de la simulation. Chaque couleur correspond à la structure filamentaire à une époque et on voit la dérive de la structure filamentaire. Le fait qu'on voit quelque chose alors qu'il y a toute l'histoire de l'univers dans cette petite animation, qui n'est même pas une animation, juste dans un instantané de ce cube qui tourne, on a toute l'histoire de l'univers de cette région. Ça veut dire qu'à l'échelle de la structure filamentaire, il ne se passe pas énormément de choses. Si c'était extrêmement dynamique, la structure filamentaire, tout serait complètement intriqué, on ne verrait rien. Mais ça, c'est intéressant parce que ça nous permet maintenant de se placer à un des nœuds de la toile cosmique et de regarder l'évolution de la structure filamentaire comme tout à l'heure, mais vue, recentrée par rapport au pic. Et donc ce qu'on voit une fois qu'on recentre par rapport au pic, c'est qu'on voit effectivement la dérive de la structure filamentaire. Donc ces différents filaments qui correspondent à différentes époques, ils ont un mouvement transverse puisqu'on voit un dégradé, Et ce mouvement transverse, une fois que le filament va être advecté, ça va correspondre à l'acquisition de moments angulaires. Donc ça va mettre en rotation la couche externe qui va se rajouter dans la galaxie centrale. D'accord ? Donc on voit ça sur cette petite animation, ça c'est la même région, mais cette fois-ci on tient compte de la contraction gravitationnelle de la région. Et donc on voit ici que pendant que le filament se fait manger, il a aussi un mouvement transverse qui correspond au fait qu'il va amener du moment angulaire dans l'objet qui est en train de se former. Une autre façon de voir la même chose, c'est de suivre les particules de gaz et de tracer en particulier à quel endroit les particules de gaz choquent. Donc c'est ce qui fait ici, on utilise ce qu'on appelle des particules traceuses et on voit très clairement dans cette animation qui correspond à un instantané de la simulation qu'il y a bien une structure en mur et en filament et que le gaz coule très précisément le long de la structure filamentaire et on le voit arriver dans le milieu circumgalactique et se mettre en orbite autour de la future galaxie dans le milieu circumgalactique. Donc on est dans une configuration typique avec un mur et un filament. Donc on voit littéralement le plan dont je vous ai parlé tout à l'heure, le gaz qui va du vide vers le mur, qui choque du mur vers le filament et du filament vers le milieu circumgalactique. Voici encore une autre illustration de ces particules traceuses où on voit cette structure hélicoïdale. On parle d'hélicité, c'est le fait que le flot a une géométrie en forme de tire-bouchon. Et c'est ça qui va permettre à la galaxie d'acquérir du gaz supplémentaire pour se construire. Je vais passer ça, c'est la même chose en suivant les particules elles-mêmes. Donc on voit la mise en orbite des particules de gaz ici. Donc ici, une ligne, ça correspond à toutes les époques pour la particule de gaz. Ici, c'est ce qu'on appelle donc là, c'est une époque et on trace le gaz à l'intérieur de ces grandes structures. Donc ça, c'est la même simulation que je vous ai présentée tout à l'heure. Et on voit littéralement les courants froids qui se mettent en orbite dans les parties externes de la galaxie, dans le périmètre de la galaxie. Voilà. Vous voyez ici ces courants froids qui viennent alimenter en gaz. Donc si on zoome sur une de ces galaxies et qu'on regarde la distribution du gaz, on voit très clairement les différents plans stratifiés qui correspondent à l'accrétion du gaz qui s'est mis de manière coplanaire et qui va alimenter la galaxie. Donc voilà, je vous ai expliqué comment un disque galactique pouvait se construire dans un environnement cosmique perturbé de formation des grandes structures et se reconstruire, et donc comment même un résidu de fusion peut réacquérir un nouveau disque qui va se mettre en orbite autour du résidu de coalescence, de fusion, et reconstruire un disque stellaire. Donc maintenant, je passe à la dernière partie de ma présentation, qui est d'expliquer pourquoi est-ce que ce disque va réussir à survivre aux perturbations de l'environnement. Et c'est ça qui est nouveau, qui date de ces deux dernières années, et qui est un tout petit peu plus subtil, mais qui fait intervenir ce concept d'émergence, dont je pense qu'il est intéressant au-delà de l'astrophysique, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir. Donc pour ça, il faut regarder ce qui se passe. Alors là, on est à nouveau dans les observations, ce qui se passe à l'intérieur d'un disque comme le disque de la Voie lactée. Et donc on voit ici apparaître tout un zoo de choses à petite échelle qui correspondent au fait que dans le disque galactique, tel qu'observé en utilisant différents traceurs ici, il y a un degré de turbulence dans l'écoulement du gaz qui est induit par le fait qu'il y a des étoiles qui se forment, donc il y a une condensation du gaz dans les régions denses, qu'on appelle les nuages moléculaires, et il y a la rétroaction, c'est-à-dire le fait qu'il y a des supernovas qui explosent et qui vont perturber le gaz. Donc on a un écoulement qui est très non linéaire, très turbulent, très stochastique, et paradoxalement, c'est cette stochasticité qui va permettre au disque de rester mince, comme je vais vous le montrer. Donc, sur les observations ici, juste pour vous montrer des belles images, ici, c'est une région de formation stellaire intense et puis des exemples de nébuleuses planétaires qui correspondent à ce qui reste après l'explosion d'une supernova. Ici, d'autres très beaux exemples. Donc, on voit que dans notre galaxie, il y a effectivement la trace de toute cette complexité de la structure du gaz à l'échelle interne, intragalactique. Et c'est quelque chose qu'on reproduit, que mon collègue Tae-Sun Kim de Séoul reproduit dans ses simulations, où on voit ici un disque vu de face et vu sur la tranche. Et en dépit de l'explosion de ces supernovas, de la formation stellaire correspond à la contraction des nuages moléculaires, etc., et de tous ces processus compliqués qui sont pris en compte par la simulation, font néanmoins émerger un disque très mince qui se préserve. Donc ce que je veux que vous reteniez de cette animation, c'est qu'à la fois vous avez une structure assez perturbée, mais comme on va le voir, grâce à la gravitation, le disque reste mince parce qu'il y a un processus d'autorégulation qui se met en place. Donc je vous ai montré ce qui se passe à grande échelle. Tae-Sun a aussi fait des simulations à toute petite échelle, donc on est à l'échelle d'un nuage moléculaire. Et vous voyez que le processus de formation stellaire est vraiment assez complexe, turbulent et stochastique, mais néanmoins est compatible avec la préservation du disque mince. Alors vous pourriez... Donc la question qui se pose, c'est quel est l'effet de la gravitation sur ce processus de rétroaction? Et en particulier, quel est l'effet de l'amplification gravitationnelle à l'échelle du disque dans sa globalité et à plus petite échelle au niveau des nuages moléculaires? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un disque qui va être sujet à des effets déstabilisants, comme le fait qu'il y a des explosions de supernova, de la turbulence, il y a des événements de fusion mineurs, donc il y a une petite galaxie qui peut être mangée par la grosse galaxie, il y a de l'accrétion qui ne va pas nécessairement être coplanaire, et puis il y a des perturbations correspondant à des galaxies qui vont passer dans le voisinage, et il faut induire des fluctuations de potentiel qui ont des effets déstabilisants sur le disque. Et puis il y a des effets stabilisants. Il y a la formation stellaire, le fait que le gaz qui est dans un disque mince, comme on a vu tout à l'heure, il va former des étoiles qui vont être coplanaires avec ce disque. Le gaz est sujet à des processus de refroidissement, par exemple par le biais de choc, et il peut y avoir une partie de l'accrétion qui va être relativement coplanaire parce qu'elle vient du milieu circumgalactique qui lui-même s'est mis en orbite autour du disque. Plus exactement, le disque s'est mis dans le plan du milieu circumgalactique, et le milieu circumgalactique s'est ajusté par rapport à la géométrie de la toile cosmique dans son voisinage. Donc, un point important, c'est que mes collègues qui font de l'analyse de la formation stellaire dans les disques étudient différentes façons d'implémenter la turbulence ou le processus de formation stellaire. Ils obtiennent des résultats pour la morphologie de la galaxie qui montrent une morphologie différente, mais un des résultats robustes, c'est le fait que le disque reste mince. Donc, le modèle exact de rétroaction n'influe pas peu sur l'épaisseur du disque. Donc, j'ai besoin d'un dernier ingrédient. Alors, j'imagine que ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais juste celui-ci, parce que c'est un ingrédient essentiel ici. Je vais vous introduire le concept de marée. Donc, vous connaissez tous les marées ici à Saint-Malo, les jours d'alignement de la Lune et des autres planètes. Vous avez peut-être vu, pour certains d'entre vous, le film Interstellar. Donc, quand vous êtes au voisinage d'un trou noir supermassif, les marées peuvent être plus conséquentes. Mais dans les disques galactiques, c'est pire parce qu'on est dans une situation où ce n'est pas simplement la présence du trou noir qui va induire la marée, mais la vague elle-même est autogravitante. Dit autrement, à l'intérieur d'un disque, si vous induisez une perturbation, les éléments de cette perturbation vont s'attirer mutuellement les uns les autres. Et comme un disque, c'est un système froid, c'est-à-dire où presque toutes les orbites sont circulaires, il n'y a pas de mouvement relatif important entre les étoiles. Et donc, c'est la gravitation qui gagne. Donc, il y a une forte amplification de la perturbation. On parle de facteur 100 ou plus d'amplification de la perturbation associée à l'autogravitation du disque quand on considère un disque mince froid. Donc c'est ça les marées, et c'est ça qui va être l'élément régulateur dans le processus dont je vais vous parler. Donc ici, on voit par exemple que quand on met une perturbation de masse 1, ça génère une marée, quand on fait tourner une perturbation ici à l'intérieur d'un disque galactique, ça génère une marée, une belle spirale en l'occurrence, qui peut contenir jusqu'à 140 fois la masse de la perturbation. Donc vous voyez que c'est un effet vraiment important. Et plus le disque est froid, plus la marée va être étendue, et plus elle va être importante en amplitude. Donc ça permet à des régions qui a priori sont déconnectées de se sentir parce que la marée porte à grande portée. Donc quand on étudie les propriétés de la stabilité des disques dans nos simulations et qu'on représente un paramètre qui mesure la proximité du disque à être instable, donc à former des fortes marées, et qu'on augmente le temps cosmique ou la masse des galaxies, on s'aperçoit que plus les galaxies sont massives ou plus on regarde tardivement dans l'histoire de l'univers, plus les galaxies sont proches de la stabilité marginale. Ça, ce n'est pas du tout un hasard. Vous allez voir pourquoi c'est en fait essentiel pour expliquer pourquoi la rétroaction opère. Donc, on est dans une situation où on a un disque dans lequel il y a de la formation stellaire, il y a de la turbulence, il y a des supernovas qui explosent. Il y a de l'accrétion galactique, il y a éventuellement des fusions mineures. Et donc, sous l'effet de ces différentes perturbations, les marées vont induire une surdensité, puisque je vous ai dit qu'on multiplie la densité par un facteur 100. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi, quand on a une région plus dense, ça correspond à des temps dynamiques plus courts. D'accord ? Donc ici, on est dans la même situation. Quand la marée se déclenche, elle induit des temps dynamiques plus courts, et donc les processus de régulation qui sont associés à l'explosion des supernovas versus la transformation de gaz en étoiles vont opérer plus rapidement parce qu'ils sont accélérés par la marée, qui correspond à des temps dynamiques plus courts. Donc on a une boucle de contrôle qui est plus serrée et donc un disque plus rigide. Donc c'est vraiment l'analogue de pourquoi est-ce qu'on arrive à faire voler des drones aujourd'hui et qu'on n'arrivait pas il y a 30 ans? C'est parce qu'on a une électronique plus rapide. Donc en fait, on peut empêcher le drone de tomber parce qu'on corrige vite quand il part dans une direction ou dans une autre. C'est vraiment l'analogie aussi de pourquoi est-ce qu'on arrive à tenir debout. En fait, l'état naturel de quelqu'un debout, c'est de tomber, mais on corrige en permanence notre chute parce qu'on a un système de rétroaction auquel on ne pense pas nécessairement, mais qui est rapide. Et donc là, c'est ce qui se passe dans un disque galactique. À cause des marées, vous avez une correction rapide de la perturbation qui fait que le système revient vers un état corrigé. Donc on est dans une situation où on a des effets déstabilisants, la présence de supernovas, de turbulences, de fusions, etc., des effets stabilisants dont je vous ai parlé, des perturbations extérieures et un milieu circumgalactique qui alimente la galaxie en gaz froid, et qui donc alimente le moteur. Et grâce aux marées, on a une boucle de rétroaction qui est resserrée, qui opère beaucoup plus rapidement grâce à l'amplification gravitationnelle, l'autogravitation du système. Donc on est vraiment en présence d'un système ouvert, puisqu'il y a injection d'énergie libre qui vient du milieu circumgalactique, de gaz froid avec du moment angulaire, de la rotation, c'est pour ça qu'on parle d'énergie libre. La galaxie arrive à se réordonner grâce au travail qu'elle arrive à faire à partir du mouvement d'ensemble du gaz qui est accrété. Et ce système ouvert, dissipatif, contrôle une boucle qui génère de la complexité, c'est-à-dire un disque mince ordonné à partir d'auto-organisation. Donc j'ai à peu près fini. Donc on est dans un système à trois composantes couplées par la gravitation. On a mis en place un réservoir alimenté par la toile cosmique, c'est la première partie de mon exposé. On a convergence vers la stabilité marginale et une accélération de la rétroaction par les marées. Et donc, on a en conséquence un raidissement du disque stellaire par amplification, découplage et dissipation accrue. Donc, voilà l'organigramme de cette deuxième partie. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on avait anticipé il y a 30 ans, mais ça reste tout à fait du domaine de ce qu'on sait comprendre, parce que c'est quelque chose qui opère dans plein d'autres domaines en science, y compris en écologie, y compris dans l'émergence du Covid, dans le chaos. On est dans une situation où ce n'est pas simplement le gaz qui se convertit en étoile, mais parce qu'il y a déjà des étoiles et donc il y a des marées et une rétroaction, on est dans une situation d'autocatalyse où le gaz se convertit en étoile en utilisant la présence d'étoiles froides, enfin froides au sens dynamique, hein, ce n'est pas l'étoile qui est froide. Et donc quand on a une équation comme ça qui est autocatalytique, on récupère une équation d'évolution qui est une équation dite logistique où le taux de croissance de la composante froide est proportionnel à la taille existante de la composante froide avec un effet de saturation si elle devient trop grande. Donc on a une croissance de la composante froide qui est donnée par ce type de courbe, c'est ce qu'on appelle une courbe logistique. C'est celle qui décrit aussi, c'est l'archétype de l'émergence du chaos. Mais ici, à cause de processus dissipatifs, le système se met au voisinage de sa configuration instable, en l'absence de rétroaction, qui est la configuration de stabilité marginale. Donc on comprend pourquoi le disque opère au voisinage de l'instabilité gravitationnelle. Donc on est vraiment dans un système qui a émergé spontanément à partir de la toile cosmique et qui fonctionne dans un régime qui n'est pas la somme de ses parties. Donc les grandes structures dirigent l'accrétion du gaz dans le milieu circumgalactique et fournissent le moteur pour l'émergence des disques homéostatiques minces. Donc le paradoxe de l'existence et de la préservation des disques est résolu et le tout ne se comporte pas comme la somme des parties. Donc on a un système qui est dominé par la gravité à presque toutes les échelles. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, que personnellement je trouve intéressant. Et la gravité, c'est toujours un bon terrain de jeu. On est 333 ans après la publication par Newton de Principia. Donc vous voyez qu'on arrive à quand même comprendre ce qui se passe à grande échelle à partir purement des lois de la gravitation classique. La recherche sur ce sujet, c'est un sujet qui personnellement m'avait interpellé dès les années 90, donc ça a mis longtemps. Mais je pense que c'est intéressant au-delà de l'astrophysique, puisque l'émergence est omniprésente et souvent ignorée. Donc je vous remercie.
Oui, il marche. Alors, merci Christophe pour cette présentation. Il y a eu plusieurs commentaires. Moi, j'ai quelques questions aussi. Il y en aura peut-être dans la salle un peu plus tard. Si vous avez d'autres commentaires sur le chat ou d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être une question un peu générale, tiens, en partie répondu, mais est-ce que tu pourrais donner, il y a eu quelques questions là-dessus, puis après les gens ont dit, moi, si quand même on a compris, mais peut-être est-ce que tu pourrais définir en termes simples ce qu'on appelle la toile cosmique plus précisément. Tu l'as dit, tu l'as abordé, mais est-ce que pour les gens qui auraient raté cette définition, le définir en quelques phrases simples, s'il te plaît.
Alors la toile cosmique, c'est l'ensemble des murs, des filaments et des vides qui représentent la distribution des galaxies à grande échelle. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un fait observationnel. Dans les années 80, Valérie de Lapparent, qui est maintenant dans cet institut, a identifié dans les relevés de galaxies à grande échelle cette distribution particulière des galaxies à grande échelle. D'un point de vue théorique, c'est une conséquence du fait que les fluctuations primordiales qui vont induire la formation des galaxies à très très grand redshift ne sont pas distribuées de manière complètement uniforme et donc il y a des directions privilégiées et sous l'effet de la gravitation, ces directions privilégiées se renforcent et donc il y a formation de murs quand cette matière noire non collisionnelle passe une première fois au travers d'elle-même, ce que les Russes ont appelé des crêpes, des pancakes. Et ensuite, quand il y a un effondrement suivant la deuxième direction, on forme une structure filamentaire, et puis suivant la troisième direction, on forme essentiellement les nœuds de la toile cosmique. Donc ça, c'est ce qui se passerait si on lissait beaucoup l'univers primordial et qu'on regardait ce qui se passe juste à grande échelle. En pratique, il y a de l'effondrement à toutes les échelles, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas une structure aussi lisse, on voit une structure un peu avec une structure filamentaire à l'intérieur des murs et une structure et des murs à l'intérieur des filaments, etc. Mais disons que la toile cosmique, c'est la distribution à très grande échelle des galaxies. Quand moi, j'étais gamin, j'avais comme sous de bureau un poster qui représentait les échelles de 10. Et au-delà des amas de galaxies, je vous ai présenté des amas de galaxies, l'univers était censé être grumeleux et homogène. Or, en fait, ce n'est pas le cas. L'univers, à l'échelle au-delà des galaxies, des super-amas, elle a cette structure en forme d'éponge, de toile avec des murs, vraiment une toile cosmique. Et c'est une nouveauté quand j'avais 10 ans, quelque chose qui n'avait pas été vu ni anticipé et qui joue un rôle, au vu de ce que j'ai essayé de vous expliquer, important dans l'acquisition du moment angulaire et le fait que les galaxies tournent. Si l'univers était parfaitement isotrope, y compris à toute petite échelle, il n'y aurait que des trous noirs partout parce que tout s'effondrerait au centre. Il faut acquérir du moment angulaire pour former des disques, pour ne pas former que des trous noirs. Et ce moment angulaire, il vient de l'anisotropie de la distribution de la matière à grande échelle. C'était okay. Trop long mes réponses.
Non, c'est bien, merci. Et justement, donc, tu as montré beaucoup de simulations de cette toile cosmique. Donc les gens, il y a eu pas mal de commentaires où les gens étaient assez impressionnés par ça. Il y avait des questions aussi, notamment la toute première, où ce n'était pas clair, et, enfin, pour certains internautes, Qu'est-ce qui bougeait? Est-ce que c'était le temps qui bougeait ou est-ce que c'était la caméra qui se déplaçait à une vitesse de folie à l'intérieur de tout ça?
La simulation de mon collègue Stéphane, qui est jolie, là, celle-là, elle fait les deux en fait. Au début, ça c'est une évolution temporelle. On voit l'émergence de la toile cosmique à partir de la soupe primordiale. Et puis là, je pense que c'est toujours en évolution. Et puis là, c'est la caméra qui se déplace. D'accord ? Les simulations que je vous ai présentées préalablement, celles-ci, que ce soit les données ou la simulation de mes collègues, je vais vous mettre celle-là parce qu'elle dure 7 minutes, on a le temps de poser plein de questions. Là, on est en train de faire littéralement un travelling, c'est-à-dire on est un engin spatial super luminique et on s'éloigne, on va de plus en plus loin. Donc il y a les distances là, qui sont en mégaparsecs, donc en 3 millions d'années-lumière, l'unité si vous voulez. Et donc on est à 2500 mégaparsecs et là, c'est votre engin spatial qui est en train de plonger vers le passé. S'éloigner, donc aller vers le passé. Donc si on continue cette conversation pendant 7 minutes, vous verrez qu'à la fin, il y a beaucoup moins de galaxies parce que l'univers est beaucoup plus jeune, beaucoup moins évolué.
Alors, tu as dit au tout début également que dans les ingrédients pour faire ces simulations de la toile cosmique, notamment celle avec ton collègue en Corée, il y avait deux éléments importants, les lois de la gravitation et les lois de la formation stellaire. Est-ce que tu peux juste résumer en deux mots les deux, c'est quoi les
deux éléments que tu prends? Il y en a un petit peu plus que ça, j'étais un peu vite. Il y a surtout et de manière importante l'expansion de l'univers. Il y a l'énergie noire qui fait que l'expansion de l'univers s'accélère. Et ensuite, on a besoin de convertir le gaz primordial en étoiles pour que spontanément ces étoiles se mettent à former les galaxies. Alors, j'insiste là-dessus. On est obligé de donner ce qu'on appelle des recettes de formation stellaire, c'est-à-dire on donne des règles pour dire si la densité de gaz est supérieure à un certain seuil, on va dire, je simplifie, alors on va convertir une partie du gaz dans la cellule hydrodynamique du code en une macroétoile, et on va associer à cette macroétoile un âge, zéro au moment où elle se forme, et ensuite l'étoile va vieillir. On va même lui associer ce qu'on appelle une métallicité, c'est-à-dire une abondance en éléments lourds au-delà de l'hélium. Et cette métallicité, elle correspond à l'état du gaz au moment où l'étoile se forme. Et c'est ça qui est, à mon avis, très spectaculaire. Alors maintenant, ça fait quand même 15 ans qu'on arrive à faire ça, donc on est un petit peu moins émerveillé. Mais je sais que, personnellement, j'ai vu ces premières simulations, ça m'avait frappé. On ne fait rien pour former la galaxie. On forme juste des étoiles, mais sous l'effet de la gravitation et de la présence de matière noire et de l'expansion de l'univers, spontanément, les étoiles vont se former telle sorte que la galaxie apparaît. Donc la galaxie est vraiment le produit de je forme des étoiles à un certain moment à partir du gaz et sous l'effet de la gravitation, ces étoiles se mettent en orbite et forment la galaxie. Alors il y a des choses un tout petit peu plus complexes qui se passent. Les étoiles meurent au bout d'un certain moment. Elles éjectent de l'énergie et des métaux dans le milieu intergalactique ou intragalactique. Donc on a besoin de modéliser aussi cette éjection de gaz ou de métaux à partir des étoiles qui meurent. Ça éjecte de l'énergie, donc ça impacte. Vous avez vu tout à l'heure la turbulence dans le disque qui est impactée par l'explosion de ces supernovas. Et j'ai oublié de dire que ces simulations forment aussi des trous noirs supermassifs au centre. Quand Il y a des graines de trous noirs qui sont mises et quand le gaz arrive trop près du trou noir, il est mangé par le trou noir. Le trou noir grossit, il éjecte du gaz par ce qu'on appelle des noyaux actifs de galaxies qui eux-mêmes vont modifier la dynamique du gaz dans le voisinage. Donc c'est un petit peu sophistiqué. C'est important en particulier pour les galaxies les plus massives. Si on n'a pas ces trous noirs qui se forment, on ne va pas avoir à la fois des spirales et des elliptiques, comme je vous ai montré, parce qu'en fait, le processus de reformation des disques dont je vous ai parlé, s'il n'y a pas de trou noir supermassif, il est trop efficace, donc tous les bulbes reforment des disques systématiquement. Mais les disques, ils n'ont pas le bon âge, ils sont trop jeunes, etc. Donc, tous ces ingrédients ont besoin d'être là pour expliquer ce qu'on voit, et que ce qu'on voit soit en accord du point de vue d'un bon nombre de paramètres avec ce qu'on a observé dans la diapositive précédente.
Ok, merci. Il y a une autre question qui est apparue sur le chat et qui a été pas mal débattue. Les gens ont proposé des solutions, des choses comme ça. Une idée qui n'a pas été complètement claire et qui paraît même un petit peu contre-intuitive. Tu dis que les vides repoussent les murs, repoussent les structures.
Oui.
On pourrait avoir l'impression que plutôt c'est les structures qui vont tomber dans le vide. Donc comment peux-tu un peu mieux faire comprendre cet apparent paradoxe?
C'est lié au fait qu'on est dans un univers en expansion. Donc ce qui compte, on a soustrait... la densité moyenne de l'univers dans les équations dynamiques qui le décrivent. Et donc, ce qui impose une force sur un objet donné, ce n'est pas la densité d'un objet dans son voisinage, mais c'est la surdensité de cet objet. Donc, si cet objet est surdense, ça va attirer de manière classique, mais si cet objet est sous-dense par rapport à la densité moyenne de l'univers, alors ça va repousser. C'est lié au fait qu'on fait la dynamique dans un référentiel en expansion avec l'univers et qu'on a soustrait la composante moyenne qui, elle, est compensée par l'accélération de l'univers. Donc on regarde les perturbations. Voilà. C'est parce qu'on fait la dynamique des perturbations dans un univers en expansion. Et donc les sous-densités, c'est des perturbations qui repoussent. Et c'est vraiment important, et ça a été pour moi, alors mes collègues cosmologues savaient ça sûrement mieux que moi, mais moi j'étais galacticien initialement, donc ça a été un petit peu un moment eureka de réaliser ça, et en fait, une fois que je vous le montre, j'espère que c'est clair, on voit bien que les vides deviennent de plus en plus grands, enfin, il n'y a pas de doute. Mais...
Juste admettons, et puis je vous passe la parole, juste admettons que l'univers ne soit pas en expansion, alors ça changerait comment?
Ah bah ce serait assez différent, oui.
C'est compliqué pour répondre en deux. Enfin.
On formerait très vite un énorme trou noir, je pense, parce que là, c'est l'expansion de l'univers qui empêche tout de s'effondrer sur soi-même, en fait. C'est parce que y a un mouvement inertiel de l'ensemble de la matière dans l'univers qui fait que c'est que les régions surdenses qui tombent sur elles-mêmes, et justement, les régions sous-denses, elles poussent. Alors que s'il n'y avait pas de... S'il n'y avait pas d'expansion, tout s'attirerait catastrophiquement et on formerait un gigantesque trou noir. C'est l'hypothèse du Big Crunch, par exemple. Si l'univers n'était pas... était trop lourd par rapport à sa quantité, par rapport à l'énergie d'expansion initiale, il va retomber sur lui-même et former un... Enfin, on pense que ce n'est pas le cas en l'occurrence, mais on aurait pu envisager une situation où il retombe sur lui-même.
Alors, est-ce qu'on a des questions, des commentaires dans la salle? Une question, je vous passe le micro.
Déjà, en tout cas, merci Christophe pour cette présentation extrêmement intéressante. Je pense que c'était vraiment un bel effort. J'ai deux commentaires. Déjà, je trouve ça extrêmement intéressant que cette notion d'émergence à partir du chaos qui structure des galaxies, spirale, on la retrouve à l'échelle, à notre échelle, là, sur notre monde à nous, mais on le voit aussi à l'échelle de l'univers. Et quelque part, c'est ça qui crée aussi notre galaxie, qui est la Voie lactée, un peu notre maison. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassure un peu. mon deuxième commentaire, c'est que je vois que les galaxies sont aussi soumises à une pression sociale, puisqu'elles restent minces. Donc, on a un peu une même injonction à notre niveau. Ensuite, j'ai pas mal de questions, mais je vais essayer de... J'avais une première question, c'est est-ce que les premières galaxies, du coup, si on comprend que les galaxies deviennent sous forme de disques, est-ce que c'est lié à la structure de l'univers? Au tout début, quand l'univers était très jeune, il était peut-être moins structuré comme ça. Du coup, est-ce que les premières galaxies ont une forme différente ou pas? Est-ce qu'on le sait ou pas?
Alors, c'est ce qu'on appelle une très bonne question parce que j'ai une réponse. Réponse, c'est les premières galaxies, où c'est, en fait, les premières, c'est... je vous ai dit tout à l'heure que ce qui compte dans un univers en expansion, c'est la densité, c'est ça qui définit les horloges, hein, c'est vraiment le cœur de ma présentation. Et donc, dans un univers en expansion, il va y avoir des régions qui sont vraiment un petit peu plus surdenses que les autres initialement. Et donc, c'est elles qui vont évoluer dynamiquement le plus vite. Et donc, ce qui va devenir des super-amas, se forment très tôt les proto-galaxies. On observe des galaxies même des noyaux actifs de galaxies quand l'univers avait un vingtième de son âge. Et dans ces régions-là, ce que je vous ai décrit, ça se passe déjà, mais simplement, le gaz y vient de moins loin. Parce que je vous avais vu tout à l'heure que la structure centrale, elle mange ses filaments, mais au début, elle mange le haut du bras, d'accord ? Donc le gaz, il vient de moins loin, donc il a moins eu le temps d'acquérir un mouvement transverse, donc il tombe plus directement vers le centre. Et donc, il y a 3-4 ans, les gens ont observé ces quasars à très grand redshift, et ils se sont dit comment on arrive à alimenter un trou noir aussi vite en gaz frais pour former un objet qui va valoir 100 millions de masses solaires quand l'univers avait un vingtième de son âge. Et en fait, on a écrit un papier avec mes collègues, avec Johan Dubois en particulier, l'architecte des simulations que vous avez vues sur la fin, qui montre que ce gaz qui vient de moins loin, il va tomber plus vite, enfin plus près du centre, plus près du centre. Donc en fait, les galaxies qui se forment très tôt comme ça, elles sont très compactes et elles acquièrent du gaz vraiment dans leur région très centrale, alors que les galaxies qui vont se former plus tardivement dans l'histoire de l'univers, donc qui se sont formées dans des régions moins extrêmes, elles vont acquérir du gaz plus tardivement et donc ça va être des galaxies plus étendues. Donc ça, c'est compatible avec l'évolution de la taille des disques galactiques telle qu'on la mesure dans ces simulations, qui semble en accord avec ce qu'on observe. Donc vraiment, il y a une différence entre les jeunes galaxies qui vont être petites, acquérir du gaz qui a peu de moments angulaires, donc qui tombe quasiment au centre, et les galaxies plus tardives qui sont plus grandes et qui vont acquérir du moment angulaire qui vient de plus loin et qui donc se mettent en banlieue plus éloignée de la capitale.
Ok, merci Hergé. J'ai une deuxième question, après je vais passer la parole au deuxième. Ce que je comprends, mais tu vas nous confirmer, c'est que là on est sur un exemple de fluide sans collision, et donc ce que je comprends, c'est que c'est parce que l'interaction c'est avec la gravité, hein, c'est peut-être, enfin tu confirmeras ça. Ma question, c'est est-ce qu'on a des équivalents sur Terre de fluide sans collision, est-ce que ce type de phénomène, alors pas évidemment, pourrait se retrouver également sur Terre dans un endroit.
Alors les fluides sans collision qu'on connaît, il y a les plasmas. Donc, si vous êtes dans un tokamak, vous avez un fluide sans collision.
c'est une bonne question.
C'est une mauvaise question, pardon.
Pour la prochaine fois.
Parce que je n'ai pas de réponse juste rapidement là. Par exemple, je vous ai dit que le gaz dans l'univers était un fluide collisionnel. En fait, c'est une question de densité. Dans les régions très ténues d'univers, le gaz peut commencer à se comporter de manière non collisionnelle. Mais dans le voisinage d'une galaxie, typiquement, il y a une densité d'atomes par mégaparsec cube, ou mètre cube, ou ce que vous voulez, qui est telle que quand une particule de gaz rencontre une autre particule de gaz, elles se défléchissent, ce qu'on appelle, éventuellement, ça induit un choc. Quant à une étoile et une autre étoile qui se rencontrent, en fait, elles ne se voient pas à cause de l'interaction à longue portée, à cause du fait qu'une étoile, c'est tout petit, c'est une section efficace extrêmement petite, on dit en physique, et au fait que la trajectoire d'une étoile dans une galaxie ou dans les grandes structures, elle est complètement dominée par ce que font l'ensemble des autres étoiles à grande échelle et non pas par la position de sa voisine. Ce n'est pas vrai, par exemple, dans ce qu'on appelle un amas globulaire qui va contenir quelques 100 000 ou 1 million d'étoiles, où là, il y a suffisamment peu d'étoiles pour que la contribution de toutes les autres étoiles ne domine pas sur la trajectoire par rapport à la position des voisines. Donc, un amas globulaire ou un amas ouvert de jeunes étoiles qui viennent de se former, c'est un fluide collisionnel. Donc, en fait, vous voyez, un gaz, ce n'est pas toujours non collisionnel et un fluide d'étoiles, ce n'est pas toujours... non collisionnel non plus.
Moi, merci. Alors d'abord, merci beaucoup pour cet exposé qui était passionnant et même fascinant, je dirais, pour moi qui ne suis pas du tout un spécialiste. Alors quelques questions concernant tu es un théoricien, ce sont des simulations que tu nous montres là. Et moi, je suis un physicien, donc je me posais la question du rapport avec l'observation. Comment tu utilises les observations de l'univers dans ton travail? Est-ce que tu fais des fits de tes modèles? Quelle est la sensibilité de ce modèle, par exemple de toile cosmique, aux conditions initiales? Et est-ce que vous obtenez à chaque fois le même résultat, ou est-ce qu'il y a plein de possibilités, plein de solutions, plein de types de solutions à partir d'un même point de départ?
Alors, je vais commencer par la dernière question. L'astrophysique, ce n'est pas une science expérimentale, c'est une science observationnelle. On ne peut pas aller taper dans les galaxies à grand redshift. Elles sont loin, on ne voit que de la lumière. Donc, c'est difficile d'être absolument sûr que ce qu'on modélise, c'est vraiment en accord avec ce qui se passe. Mais les gens dépensent beaucoup d'énergie et d'efforts, voire d'argent, pour faire des grands relevés de galaxies, y compris à grand redshift, donc à grande distance, ou pour regarder des galaxies vraiment peu brillantes, et déterminer quand même, par exemple, ici, leur cinématique, c'est-à-dire quel est le degré de mouvement moyen de la galaxie et l'agitation des étoiles dans la galaxie. Et donc d'utiliser ces deux nombres qu'on peut mesurer en faisant de la spectroscopie, en décomposant la lumière de la galaxie, pour avoir ce qu'on appelle un proxy, donc quelque chose qui est une mesure de ce que pourrait être l'aplatissement de la galaxie. L'idée, c'est que si la vitesse moyenne des étoiles dans la galaxie est grande par rapport à l'agitation, on est vraisemblablement en présence d'un disque, alors que si c'est l'inverse, c'est plutôt une elliptique ou un bulbe. D'accord ? Donc, comme ça, on arrive à associer à un ensemble élevé de galaxies. Alors, c'est des observations qui coûtent cher. Il faut décomposer la lumière d'objets très peu lumineux. Il faut faire ça sur des milliers d'objets, etc. Mais on peut construire une figure comme ça qui va vous représenter quelle est la fraction de galaxies qui semblerait être plutôt des disques, on va dire. Je vous le fais à la main, qualitativement, en fonction soit de la masse de la galaxie, soit de l'époque, l'âge dans l'histoire de l'univers. Et on trouve qu'on a cet accroissement du nombre de galaxies qui semblent être des disques, à la fois avec l'âge de l'univers et avec la masse de la galaxie. Je vous ai dit qu'en fait, ce qui compte en dynamique, c'est la densité. Donc, regardez une galaxie massive ou regardez une galaxie tardive, en fait, c'est la même chose. Et on trouve les courbes qui sont les, je ne vais pas dire de bêtises, c'est les étoiles. Donc, les étoiles, c'est ce qui est mesuré dans ces surveys qui coûtent assez cher et qui nécessite des années et des années d'observation sur des très gros télescopes. Et donc, ce qui est représenté en rond, c'est le résultat de l'analyse de la simulation. Donc, voilà le genre de validation qu'on peut faire sur ce problème spécifiquement de ce qu'on appelle la mise en place des disques. Je me réfère à la première partie de mon exposé. On trouve que les simulations sont en accord statistiquement avec les propriétés observées des galaxies dans ces surveys. Bon, il y a plein de validations qui sont faites. Alors, c'est nouveau et c'est difficile. Ce que je viens de vous décrire, c'est difficile observationnellement parce qu'on veut mesurer la cinématique d'objets qui sont très loin. Ce qu'on peut faire qui est plus facile, c'est compter le nombre d'objets ou essayer, par exemple, de leur associer une masse. Donc, ce qu'on a regardé d'abord, c'était est-ce que la distribution en masse des galaxies était en accord avec la simulation ? On a trouvé que oui. Plus récemment, on a regardé quelle était la taille des galaxies en fonction du redshift, enfin de l'époque. On a trouvé que c'était en accord avec les simulations. Maintenant, on commence à regarder la cinématique, telle que je viens de vous le dire. Et pour vous donner un truc où il y a encore de la recherche à faire, un truc qui pour l'instant ne marche pas du tout, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est la fraction de galaxies barrées. Tout à l'heure, je vous ai montré un diagramme de Hubble. Il y avait une branche en bas qui correspond aux galaxies qui avaient des belles barres. Mais en fait, on peut mesurer le nombre de barres en fonction de la masse de la galaxie et l'époque. Et ce qu'il y a dans la simulation ne correspond pas du tout. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore modélisé correctement en ce qui concerne...
Juste une toute petite question dans le même ordre d'idée. Je voyais la formation des galaxies. Moi, je les appelle des bébés galaxies. Je ne sais pas si c'est peut-être idiot. Mais
les galaxies naines, on dit plutôt.
Donc, je comprends qu'une galaxie naît de l'interaction de nombreuses petites galaxies.
Oui.
Est-ce qu'on les a observées, celles-là ou
Alors oui, ça par contre, oui. Donc, c'est ce qu'on appelle le Je ne vais pas parler de ça parce que c'est classique, mais c'est ce qu'on appelle le modèle hiérarchique de formation des structures. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit l'inverse. Je vous ai dit qu'il y a des grands murs et puis ils collapsent sur eux-mêmes, ça forme des filaments, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle anti-hiérarchique. C'est l'école russe de formation des structures. L'école américaine de formation des structures, ça consistait à dire que les grosses galaxies se forment à partir de petites galaxies et les grosses galaxies coalescent pour former des amas, etc. Dans la vraie vie, comme toujours, la réalité est un peu entre les deux. C'est-à-dire que vous avez à la fois ce processus de coalescence que tu as vu dans les films, mais vous avez aussi la toile cosmique. Donc la formation des galaxies par qu'on appelle en franglais bottom-up, donc des petites échelles vers les grandes échelles, elle a lieu parallèlement à la formation des structures top-down, ou des grandes échelles vers les petites échelles. Et les deux ont lieu simultanément. Et c'est en ce sens-là que ce que je vous ai raconté, c'est un contexte intéressant de causalité descendante, parce qu'on est dans un système qui est couplé multi-échelles par la gravité. Vous voyez que vous avez un impact des petites échelles vers les grandes échelles, enfin vers les moyennes échelles, et des grandes échelles vers les moyennes échelles. Donc c'est une causalité descendante parce que la structure à toute petite échelle, une galaxie c'est tout petit par rapport à la toile cosmique, elle vient de la stabilité de la dynamique à grande échelle. Donc elle a hérité, parce qu'elle s'est formée à partir d'eux littéralement, elle a hérité du fait qu'elle vient d'un environnement peu dense, qui avait donc un mouvement il était en train d'acquérir de la rotation à grande échelle, cohérente, et c'est ça qui maintient le disque fin et mince et en rotation. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est pas toujours le cas en physique ou en biologie que tu as ce couplage d'échelles de manière aussi claire et identifiée.
Merci. On va peut-être finir par encore une ou deux dernières questions qui étaient sur le chat. Il y en a une notamment qui dit « J'imagine qu'il y a énormément de calculs dans tout ça, mais quelles sont les données observationnelles utilisées au départ ?» Alors, tu en as un petit peu parlé là, mais peut-être juste résumer un petit peu les télescopes, les instruments qui sont utilisés pour ça, pour les observations, mais également du côté des simulations, quel type d'ordinateur vous utilisez pour faire toutes les simulations dont tu as parlé. Donc, du point de vue des observations et de la simulation, est-ce que tu peux citer des noms, donner des ordres de grandeur, des instruments, des équipements utilisés?
Alors, je vais répondre en parlant du nombre de gens qui sont impliqués dans l'un ou dans l'autre. Je vais dire des chiffres un petit peu au hasard, mais je dirais 80% de la communauté des astronomes sont plutôt côté observation. Donc, ils se mettent ensemble et ils analysent des observations qui sont issues des grands télescopes dans le monde et puis des satellites aussi. Donc les grands télescopes, ça va être pour les Européens le Very Large Telescope au Chili, et il y a des télescopes qui sont en construction comme le Extremely Large Telescope qui va faire 42 mètres de diamètre au Chili aussi. Il y a des grands relevés qui vont pointer des régions proches du ciel pour cartographier la distribution des galaxies en utilisant des systèmes multifibres où ils vont décomposer la lumière de centaines voire de milliers de galaxies en une seule pose pour pouvoir mesurer par exemple la distance de la galaxie, c'est une chose, mais éventuellement sa structure cinématique interne, est-ce que c'est plutôt une elliptique ou une spirale. Donc ça, c'est un effort vraiment important depuis 20 ans maintenant, et on attend le Large Synoptic Telescope, le LSST aux États-Unis, et en Europe, on attend sa contrepartie spatiale, donc il y a aussi des instruments spatiaux qui font ça. Donc dans la maison, on va lancer l'Europe, mais le porteur de la mission est dans la maison. On va lancer un télescope qui s'appelle Euclide et qui va faire une première cartographie optique de tout le ciel, enfin d'une bonne partie du ciel, je ne sais plus si c'est 40 ou 60% du ciel. Et donc, c'est pour... L'objectif scientifique, c'est de contraindre les modèles d'énergie noire, la façon dont l'univers se met à accélérer dans son expansion, mais une des conséquences, c'est qu'on va mesurer des spectres de millions de galaxies. Donc, entre quand moi j'ai commencé à travailler, où on observait en multiplexé, on appelle ça, quand on dit on fait plusieurs spectres en même temps, bon, c'était vraiment les débuts il y a 30 ans, et maintenant on en est à plusieurs milliers de galaxies par pose. Et donc, ça permet de faire des grands relevés avec des millions de galaxies. Donc voilà pour les observations, j'espère que j'ai rien oublié. Moi je suis pas un observateur, donc pour ce qui est des simulations, on fait mieux que la loi de Moore, c'est-à-dire que non seulement on utilise les processeurs et on fait travailler des super ordinateurs entre eux de manière optimale. Enfin, on utilise ce qui existe, disons, à un instant donné, c'est ça que je veux dire. Mais en plus, mes collègues développent des algorithmes astucieux pour rendre le calcul des forces de gravitation encore plus efficace avec le temps. Alors, ça passe par ce qu'on appelle des codes en arbre ou des codes en grille adaptative. Et ils font preuve de beaucoup d'ingéniosité, y compris utiliser des cartes graphiques ou des GPU pour accélérer le processus. Donc, quand on avait fait une première grosse simulation hydrodynamique en 2007, on était sur 2048 processeurs. Mais la simulation coréenne que je vous ai montrée, enfin franco-anglo-coréenne, qui a tourné en Corée, elle tourne sur des processeurs Phi. Là, on est en train de parler de 600 millions d'heures de calcul, donc 130 000 cœurs de calcul qui travaillent en même temps, qui tournent pendant 2 fois 3 mois, pour vous faire le film de 7 minutes que vous avez vu passer. La difficulté maintenant, c'est de faire ça sans consommer trop d'électricité, parce que c'est un vrai problème. Et donc, l'intelligence, elle va pour faire du calcul numérique en consommant peu de watts et être capable de faire ce type de simulation dans ce qu'on appelle le régime de l'exabyte, c'est-à-dire, je vais dire une bêtise, mais je vais pas dire la bêtise, je me souviens plus exactement ce que c'est. C'est la nouvelle frontière, on parle de centaines de milliers ou de millions de cœurs qui travaillent en même temps, ce qui pose des tas de problèmes à la fois de logistique et de panne, etc. Donc c'est des simulations qui sont onéreuses en temps de calcul, mais qui sont intéressantes, j'espère, et qui stimulent bien les centres de calcul. On est apprécié des centres de calcul parce qu'on met vraiment leurs machines à genoux en faisant des calculs qui font parler tous les processeurs entre eux, parce qu'on décrit un processus qui est fondamentalement longue portée. Donc ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule de gaz est impacté par ce qui se passe dans les cellules voisines, mais aussi ce qui se passe assez loin. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Si, si, en grande partie. Et peut-être pour finir, là, une dernière question. Tu as bien montré que, comme souvent en science, peut-être même tout le temps en science, ça évolue, que les connaissances progressent au fur et à mesure, au fil des décennies, comme tu l'as montré. Ce que tu nous as montré là, ces différents travaux de toi, de tes collègues, est-ce que tu nous as montré, en gros, sur cette thématique-là, tu nous as montré l'ensemble de ce qui se faisait, ou est-ce qu'il y a d'autres équipes qui font ce même type de travaux, qui trouvent globalement les mêmes choses que ce que vous avez trouvé, ce que tu nous as présenté, et donc il y a un consensus? Ou alors est-ce qu'on a, troisième cas, plein d'autres qui font des choses et qui trouvent qui font ce type d'études, qui s'intéressent, qui se posent ce type de questions, qui trouvent des résultats assez différents? Et donc, est-ce qu'il y a un grand débat sur ces questions, ou alors est-ce qu'il y a un relativement grand consensus?
Alors, c'est une, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise question, au sens où est-ce que je sais y répondre ou pas. Ce que je vous ai présenté, c'est à la fois, avec le temps qui passe, je pense de plus en plus en franglais. C'est à la fois mainstream, c'est-à-dire tous les résultats des simulations, etc., c'est pas débattu. Les différentes équipes utilisent différentes implémentations du point de vue de leur simulation numérique. Donc, moi, je vous ai parlé de deux choses. Je vous ai présenté des simulations numériques d'un point de vue illustratif et je vous ai présenté aussi une interprétation théorique. Donc, les simulations numériques, il y a un certain consensus. Il n'y a pas toujours eu un consensus. Par exemple, au début des années 2000, le fait de former des spirales ou des elliptiques, ce n'était pas une question d'environnement, c'était une question d'algorithme. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes qui utilisaient certaines méthodes et qui avaient tendance à former plus d'elliptiques, et d'autres équipes qui utilisaient d'autres méthodes, ils avaient tendance à former plus de spirales. En pratique, maintenant, ces distinctions n'existent plus. Les différentes équipes ont convergé sur la bonne façon de procéder. Donc, en ce sens-là, les résultats qui sont présentés ici sont peu débattus. Ce que je vous ai présenté ce soir, c'est quand même une recherche un peu personnelle. Moi, la question de savoir comment est-ce que le gaz cosmique trouve le plan de la galaxie, c'est une question que je m'étais posée littéralement à la première conférence astrophysique où j'étais allé en 91, et où des éminents spécialistes du sujet avaient dit les galaxies Gauchy, là, comme je vous en ai présenté, la bleue là, c'est clairement du gaz cosmique qui est en train d'arriver. Je me disais, mais comment est-ce que le gaz peut savoir où est la galaxie? Donc c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi de nombreuses années. Et on a développé des outils pour faire des analyses. On a fait des simulations au début que de matière noire, puis avec de l'hydro, puis avec des trous noirs, etc. Donc on a avancé, mes collègues et moi, et on a apporté différents éléments de réponse qui ne sont pas encore complètement consensuels. Mais par exemple, toute la première partie de mon exposé, c'est des choses qu'on a, en ce qui nous concerne, découvert dans les années 2010 et que je considère maintenant qui ont percolé dans la communauté. Il n'y a plus vraiment de consensus. Par contre, la deuxième partie de l'exposé...
Plus vraiment de débat.
Pardon ?
Plus vraiment de consensus, ça veut dire plus vraiment de débat.
Oui, pardon. Oui, j'ai dit l'inverse. A contrario, la deuxième partie de l'exposé, c'est quelque chose qui est plus récent, donc je pense que ça va prendre quelques années. Mais il faut savoir qu'on ne convainc pas l'ensemble de nos collègues d'un coup de baguette magique, quel que soit le sujet. Hein. Ça met un certain temps. Moi, personnellement, je suis assez convaincu. Je trouve qu'on a différents indices qui sont vraiment concordants et on va s'y atteler dans les prochaines années. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Si, si, très bien. Bah, je te remercie. Merci, Christophe.
Mais, juste, j'ai fait quelque chose d'un peu inorthodoxe parce que justement, je ne vous ai pas présenté quelque chose qui est totalement acquis et consensuel. C'est de la recherche en cours. Je pense que c'est peut-être plus intéressant pour le grand public de savoir ce qui se fait maintenant plutôt que de vous parler de ce qui fait l'objet d'un consensus depuis 15 ans. Voilà, donc j'ai pris un risque.
Bah, les deux sont intéressants et donc on essaye de voir un peu, mais donc tu as un peu parlé des deux, donc c'était très bien. Bah, merci beaucoup Christophe, merci aux personnes qui nous ont écoutés sur le direct YouTube. Donc cette vidéo sera disponible sur notre chaîne juste dans quelques instants, vous pourrez la revoir et puis dans les semaines, les mois qui viennent. Je vous rappelle qu'on se retrouve donc le mois prochain, mardi 5 octobre à 19h30. Donc nous recevons Rémi Cabanac qui nous parlera des groupes de galaxies. Notre programme, vous le retrouvez sur internet, sur notre page web. Et donc je vous rappelle que notre prochaine conférence, elle sera toujours diffusée sur YouTube. Il y aura toujours moyen de contribuer sur le chat et de poser des questions. Mais donc on espère qu'on pourra de nouveau, comme il y a un an et demi maintenant, accueillir quelques personnes dans notre amphithéâtre. Donc eh bien, merci à tous et donc on se retrouve le mardi 5 octobre prochain. Merci, bonsoir.